Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Moi, je me pose la question de qu'est-ce que ça va être le point caca avec The One, quoi. Le point caca de Julien sur The One.
Tu l'as préparé à celle-là.
Non, pas du tout. Toi.
C'est pas vrai,
je viens d'y
pas
penser.
Des points caca,
c'est vrai.
Non. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïsakis et Julien Dupuis.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast. Je suis Stéphane Moïsakis, je suis avec Julien Dupuis, ici présent. Salut Julien.
Lui-même.
Voilà. Pour parler de The One.
Voilà, justement. Voilà.
The One and Only Julien Dupuis.
Exactement. Et The One and Only Stéphane Moïsakis.
Exactly. Voilà. Mais par contre, on a combien 123 autres nous-mêmes c'est dans clair. L'univers, c'est ça.
Tu dois en avoir un blond, toi. Tu dois en avoir un bras. J'aimerais bien voir ça.
Ah ouais, ça doit être rigolo.
Toi, on est rentré directement dans le vif du
dans
sujet.
Dans le vif
là.
Du sujet. Parce que, donc, on parle de The One parce que c'est un film de James Wong avec Jet Li. Une des premières vraies, peut-être le meilleur film américain de Jet Li, on va dire.
C'est pas très dur en même temps, malheureusement.
Voilà.
Quoi.
C'est peut-être pas le premier film parce occidental. Qu'il y a eu, ouais, y a quand même eu, bon, à part sa présence dans L'Arme Fatale 4, il y a quand même aussi cette absolue merde totale qui était Roméo doit mourir, quoi, d'Andrew Bartoviak, dont on ne parle pas ici, donc.
Non.
Voilà. Et The One qui est, bon, plus fantastique, effectivement, plus SF, mais quand même un vrai film d'action.
Bah, disons que oui, l'idée ici, c'est que. C'est vrai qu'au niveau du genre de stéroïdes, on est quand même à la limite, c'est un peu touchy-touchy. Après, le truc, c'est que je pense que ce qui a fait pencher la balance, c'est que le pitch, le concept même du film, il est clairement au service de l'action. Enfin, c'est but.
Clairement.
C'est-à-dire que en tout cas, ce qui nous a plu, parce que on va parler après de comment le projet s'est monté et tout, et Jet Li n'a pas toujours été attaché au projet. Mais en tout cas, le but et ce qui nous est kiffé, je me rappelle à l'époque, c'était le pitch, c'était de voir Jet Li combattre Jet Li, autrement dit, voir peut-être l'un, si ce n'est le plus grand combattant de sa génération, le plus grand
artiste martial,
en tout cas au cinéma de sa génération, se combattre lui-même et de voir ce choc. Ce qui est d'ailleurs...
Bah, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans
le
film.
Non, c'est pas ce qu'il y a de plus réussi d'ailleurs, c'est un petit peu décevant, c'est-à-dire que c'est, même s'il y avait Corey Haim et tout, bon bref, on va parler de ça un peu plus tard.
Alors, est-ce qu'on pitch effectivement le film
Le terrible moment du pitch.
Ouais.
Il faudrait qu'on enregistre Arnaud qui pitch tout. Là, puis on mettrait un petit une petite bande.
Comme ça, on a déjà 4 minutes 30
c'est clair.
De podcast.
Donc, c'est un univers où il y a plusieurs mondes parallèles en fait, qui existent, les uns entre les autres. Et il y a un univers en, fait, en particulier qui a réussi à débloquer en fait, une machine, enfin, en tout cas, la technologie suffisante pour voyager de monde parallèle en monde parallèle. Bien entendu, il est interdit de voyager de monde parallèle en monde parallèle. Alors, ces mondes parallèles, c'est le même monde que le nôtre, mais avec des différences plus ou moins légères, quoi. Mais en gros, le capture mag de notre monde existe dans un monde parallèle, mais par exemple, il ne parle que des films de Christophe Honoré. Et voilà. Il fait des captures entiers sur, je sais pas moi, la carrière de Jean-Luc Godard, etc. Vous imaginez l'enfer, quoi. Ouais. Bon, bref. Mais c'est possible. Peut-être que ça existe. Et donc, en fait, le principe là-dedans, c'est que dans un des mondes parallèles, celui justement qui a créé ces machines pour voyager de dimension en dimension, il y a un personnage qui est donc interprété par Jet Li, qui a découvert qu'en tuant ses doubles, il engrangeait en fait leur énergie. Il devenait du coup de plus en plus puissant. Et le film débute vraiment au moment où il arrive dans notre univers parallèle, et il veut affronter
son dernier,
voilà, pour en fait c'est un peu Highlander mais version
kung-fu,
voilà, ouais. monde parallèle. Il doit affronter le dernier, sachant que le dernier est lui aussi nantis en fait de toute cette puissance, c'est-à-dire qu'il se partage,
voilà.
La puissance, c'est là où il y a la différence avec Highlander.
Ce qui en vrai est un super concept, quoi.
Et qui marche très bien en plus.
Ouais, en plus, il est plutôt bien pensé. Mais moi, je trouve pas très bien exploité. Parce qu'à la fin, l'écriture du film, c'est, ça reste un petit film d'action assez simple, quoi. Avec, il se passe gros...
Très court, c'est une heure 20, je crois.
Une heure 30 avec le générique. Vraiment, comment dire, concentré sur, en gros, plus ou moins une journée, quoi, une nuit. Mmh. Avec le combat en, principal à la fin, des explications un peu, tu vois, qui rentrent au chausse-pied parfois dans l'écriture, c'est-à-dire que c'est t'as le personnage de Delroy Lindo et comment dire de
Jason Statham
qui suivent en fait le méchant Jet Li,
qui sont des flics en fait interdimensionnels,
qui expliquent tout au gentil Jet Li, tu vois,
c'est quand même très court, quoi.
Bah, ouais, mais c'est très time cop en fait dans son fonctionnement, c'est très en fait je t'explique bien tout pour que tu comprennes bien tout, et du coup effectivement, toi, en tant que spectateur, t'en rates pas une miette, mais tu te dis, mais en fait, t'as tellement de possibilités de raconter ça de manière beaucoup plus fun, beaucoup plus, comment dire...
Mais en fait, ils essayent de le faire. Je pense qu'on est là, c'est typiquement le genre de truc où les gars sont aussi victimes de la politique des studios. Il faut toujours que le spectateur, le moins, on va dire, vif, comprenne tout au pitch d'un truc. Et puis, il essaye de le compenser. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup d'exposition qui se fait dans des poursuites de voitures, des trucs comme ça. Bon, bah ça, c'est... Depuis Terminator, en fait, on a déjà vu ça, de faire l'exposition un peu laborieuse, comme ça, dans le mouvement. Je trouve que c'est pas extrêmement préjudiciable en fait ce truc de l'exposition. C'est vrai qu'on s'en serait volontiers passé, quoi. Mais déjà parce que le rythme reste quand même plutôt soutenu. T'as pas vraiment, c'est pas hyper plombant en fait. Je trouve ces séquences là. Et puis en plus parce que t'as quand même l'exposition, on va dire, plus dans l'action, notamment avec tout le début, et qui fonctionne et que moi je trouve plutôt ludique. C'est-à-dire que la première fois, c'est dommage parce que aujourd'hui tu rentres dans la salle, t'as déjà vu au minimum l'abondance, et si t'as vu l'abondance, tu connais le concept du film que j'ai pitché en fait au début. Et puis si t'as pas vu le film, t'as pas vu la bande-annonce, comme t'as écouté le pitch du début, c'est foutu quand même. Mais je me dis toujours, putain, mais j'aimerais arriver complètement vierge dans le truc et découvrir découvrir en fait cette ouverture en fait, et elle est sympa en fait, parce que le jeu en fait, c'est que en fait tu arrives dans un univers, t'as l'impression que c'est le nôtre, que c'est notre monde à nous, et en fait c'est déjà un monde parallèle, et c'est déjà le monde parallèle c'est un autre monde parallèle en fait, et du coup t'as des légères différences en fait, des dissonances comme ça à gauche à droite, sur les armes des flics, leur équipement par exemple,
le président c'est Al Gore au lieu que ce soit George Bush, parce que c'est un film qui date de 2001, donc c'était juste, d'ailleurs c'est sorti juste après le 11 septembre je crois, mais bon évidemment tourné avant, et effectivement bon, on spoil la scène en question, hein, c'est Jet Li qui se fait convoyer et qui
Jet Li très méchant, ça aussi,
voilà,
ce qu'il y a
très 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 voyou, quoi, mais très voyou à la James Dean un peu voilà,
on va en parler de ça, de Jet Li, c'est génial,
et qui se fait buter en fait, et au début on comprend pas trop par qui. Et sauf que tu vois que c'est Jet Li qui sort d'un conduit d'aération, qui s'est buté donc lui-même, et qui tabasse tous les membres de la SWAT team en fait en même temps. Et dans une séquence, on va dire, légèrement inspirée des pirouettes visuellement de Matrix.
Ah non, mais on est... Alors, ça,
c'est du Matrixploitation.
C'est exactement. C'est le truc qu'on aurait presque dû dire dès le début. Comme tu l'as dit, c'est 2001, donc très peu de temps après le triomphe de Matrix. Matrix 2 n'est pas encore sorti et tout. Et là, c'est du pur film post-Matrix, quoi. Comme on en a vu fleurir un gros paquet, en fait, à cette époque-là, hein, je pense que...
James Wong s'en défendait totalement.
Ouais, c'est vrai.
Ah ouais, parce que... Alors moi, je l'avais interviewé à l'époque de la sortie du film, et je lui parle de ça, hein, tout de suite et tout. Il me dit, oui, mais en fait, il n'y a pas de bullet time chez nous. Je fais, non, mais bon, en fait, il y a un mec qui évite une balle... Non, parce qu'il peut se défendre en disant, j'ai pas utilisé la technologie du bullet time, ce qui est vrai. Tu vois,
il
a utilisé du numérique, et puis il a utilisé et t'as Jet Li qui évite une bastos au ralenti, enfin ce genre de choses. Donc
il joue beaucoup en fait sur le film et sur le tournage, et c'est notamment là-dessus qu'étaient les incrustes sur des personnages tournés avec des vitesses de défilement de caméras différentes.
Et donc, évidemment, comme ça me ressemble absolument pas du tout à Matrix, tu vois. À la fin, c'est pas dans la bande-annonce, tu vois. Donc voilà, non mais ironie mise à part, voilà, c'est clairement fait pour ce public-là supposé. C'est-à-dire le public qui a kiffé Matrix et qui écoute de la musique, tendance et tout ça, etc. etc. Donc il y a toutes ces problématiques en fait, qui sont dans le film, qui sont clairement...
Et puis tout simplement,
qui date le film énormément.
L'influence aussi du cinéma asiatique aussi, hein, qui avait été un peu préfiguré dans le premier Blade, mais qui a vraiment, vraiment été popularisé à Hollywood dans ce... petit, on va dire, ce petit cluster, ce petit, ces petites, je sais pas, ça a été même pas une décennie au final, où vraiment tout le monde s'est précipité à Hong Kong, à essayer de débaucher des chorégraphes de combat de Hong Kong, etc.
Oui. Et alors, le pitch de base, ouais. À la base, c'était pas pour Jet Li.
Non, c'était pour The Rock.
Voilà, Dwayne Johnson.
Ouais.
À l'époque où il n'était pas du tout encore une star de cinéma.
Je dis The Rock parce que justement, il était connu à l'époque, ouais, effectivement, sous son pseudo.
Et The Rock, en tant que catcheur, se serait battu contre 123 autres The Rock, quoi. Mm-hmm. Alors, ça, c'est pareil, c'est génial. Quand je lui ai posé la question, je sais pourquoi The Rock n'est plus sur le film, tu vois. Le mec, il m'a sorti une réponse. J'ai l'impression qu'il me prenait pour un gosse de 12 ans.
Ouais,
il me dit oui, alors The Rock, en fait, devait faire le film avec nous. Mais en gros, il y a son ami Stone Cold Steve Austin qui a eu besoin de son aide sur le ring. Et tu sais, il commence à me sortir un truc comme ça. J'allais lui dire, mais t'es en train de parler à un fan de The Rock de 8 ans et demi ou enfin donne-moi la vraie raison, j'avais envie de lui dire, tu vois. Mais bon, enfin, quand on est à ce niveau de langue de bois, on va dire, c'est que c'était pas trop la peine.
Mais le changement a eu lieu très tard, en fait. Et d'ailleurs, t'as des animatiques qui ont été faites avec The Rock et tout, quoi. Et je trouve que dans le film, ça se sent pas tant que ça. C'est-à-dire que la façon qu'ils ont eu de réadapter, en fait, le film pour Jet Li, bah, personnellement, je trouve que ça marche plutôt pas mal. Tu vois, par exemple, il y a une idée, en fait, où Jet Li, alors moi, je m'y connais pas assez en art martial pour vraiment être précis là-dedans, mais je sais que Jet Li n'utilise pas le même style, en fait, de combat selon qu'il incarne le méchant ou le gentil, ouais. Par exemple. Et ça se sent, en fait, ça. C'est-à-dire que même moi qui suis un néophyte, en fait, en art martial, tu vois, en fait, qu'il a une posture beaucoup plus aiguë, plus agressive, en fait, quand il est le méchant, et qu'il est beaucoup plus souple, en fait, dans la défensive, en fait, quand il est le gentil. Et même moi, j'aime bien, en fait, tout ce qui vient avec Jet Li, tout ce qui teinte, en fait, de ça, avec le Carla Gugino qui est, en fait, sa compagne, en fait, et tout. Je trouve ça plutôt sympa. Et moi, je sais que j'ai appris relativement tard, en fait, que The Rock était pressenti, en fait. Moi, j'avais dû l'apprendre dans ton interview, Steph, je pense.
Ah oui,
peut-être
possible,
qu'on en avait parlé,
ouais.
Mais plus tard. Moi, j'ai toujours cru, en fait, que, parce que, on n'a pas du tout présenté James Wong et tout, mais c'est comme Steve Wong, en fait, c'est des mecs qui ont été élevés, en fait, dans des familles asiates et qui sont nourris, en fait, de tout ça, en fait. Ils sont nourris avant que ce soit tendance, on va dire, à Hollywood. Ils sont nourris de cinéma hongkongais. Ça fait partie des tripes qu'ils ont étant jeunes, quoi. Et moi, j'avais été vachement étonné, du coup, parce que je m'étais dit, bon, bah, le mec, il vit son trip, quoi, manifestement. C'est quelque chose qu'il aime beaucoup, quoi. Et en fait, non, bah voilà, The Rock était pressenti,
ouais,
pour jouer le truc.
Et surtout,
quoi.
C'est son scénar à lui, en fait, avec Glenn Morgan
hein, ouais, ouais.
Qui sont des comment dire,
qui viennent de X-Files.
Voilà, c'est ça, des gens qui viennent de X-Files et qui sont habitués, en fait, à développer des concepts, on va dire, et à essayer de les mettre en pratique.
Qui ont complètement disparu. C'est marrant.
Ouais, quoi. Ouais, bah James Wong, il a réalisé, je crois, un Destination Finale, si je dis pas de bêtises.
Mais c'est surtout qu'ils ont fait les. Bah, c'est le concept de Destination Finale leur vient d'eux, hein,
ouais,
à
ça,
la
ouais.
Base.
Ouais.
Mais il avait fait l'épouvantable Dragon Ball, en fait. Et alors, ça
l'a.
Du coup,
aussi,
à mon avis, il n'est pas sorti de la Movie Jail, là, depuis. Mais ils ont complètement disparu. Et c'est marrant, c'est pareil, tu vois. On parlait de films post-Matrix, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils ont toujours été. Enfin, c'est comme ça, moi, que je les ai appréhendés. C'était des cinéastes geeks avant l'heure, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est aussi une tendance qui est venue, disons, à la fin des années 90, au début des années 2000, et qui, je pense, a été aussi popularisée par Matrix, quoi. C'est-à-dire des cinéastes et des scénaristes qui étaient férus de comics, encore une fois, de cinéma asiatique, de vieilles séries de SF, et là, manifestement, aussi de la quatrième dimension. Il y a ce côté-là, en fait, qu'ils avaient importé très clairement dans X-Files et qui va être aussi dans Destination Finale. Enfin, voilà, ça, c'est des vrais trucs où tu vois qu'ils adoraient, en fait, même ces nouvelles-là, les nouvelles de
SF, de faire du cinéma fun, en fait. C'est-à-dire,
voilà,
qu'il y a ce truc-là. Je pense que c'est bon, les studios, je pense un Destination Finale ou un The One, les studios les comprennent plus ou moins, ces films-là. Mais ils lâchent la bride, en fait, à ce genre de réalisateur-là. Sur
à
un
ce
film
moment-là,
comme Matrix,
en tout cas,
parce que en fait, ils ont bien vu qu'ils étaient un peu à la ramasse, qu'ils comprenaient pas forcément ce dont le film parlait, mais qu'ils ont bien vu qu'en fait, il y avait une partie du public qui connectait totalement avec ça, quoi. Alors bon, on a beaucoup parlé de Matrix, tout ça. C'est clairement The One, ce n'est pas ça, hein, tu vois.
Non, c'est pas du tout du même niveau. C'est sûr.
C'est clairement pas du même niveau. Il y a, moi, je trouve, en fait, on va dire. les qualités de ses défauts, que c'est-à-dire que c'est une petite série B tout à fait sympathique, avec
qui
un ton
qui s'assume comme tel,
avec un ton fun, qui pourrait être beaucoup plus débridé, en fait, qui pourrait partir dans tout un truc avec son univers, par exemple, ne pas montrer que deux Jet Li, mais en montrer plusieurs, tu vois, et vraiment en fait montrer tous ces combats-là, tu vois, tous les trucs en fait, et du début jusqu'à la fin, en fait, pas forcément partir uniquement du point de vue du méchant, même si c'est là où l'histoire commencerait, quoi, et vraiment partir en fait dans tout un délire, et ils le font pas vraiment, c'est vraiment en fait, t'as vraiment la portion très congrue de ce que tu pourrais voir de cet univers-là, avec, je trouve, des principes d'écriture un peu à la Retour à le futur, même si là c'est une question temporelle, là ça serait plus une question d'univers parallèle, même s'il y a un peu de ça dans Retour à le futur 2 en l'occurrence. Mais l'idée que pour te faire comprendre les choses facilement, effectivement, bah, dans un univers le président c'est Bush, dans l'autre univers le président c'est Al Gore, il y a Jet Li, donc ça c'est un peu rigolo, il a des coupes de cheveux.
Mais c'est là où tu vois que le film se positionne clairement d'ailleurs dans l'humour, quoi, c'est-à-dire que il joue avec Jet Li, effectivement, avec ses différentes personnalités univers parallèles, c'est très drôle, hein,
et même dans les combats, hein, tu vois, je veux dire, par exemple, le Jet Li surpuissant à un moment donné attrape deux motos, il éclate un type avec ça, c'est rigolo, quoi, tu vois, c'est voilà, et c'était pré comic book, on va dire, tu vois, donc il y avait des trucs un peu fun parce que ça c'est le genre de truc que Hulk fait, tu vois, et voilà, quoi.
Ce qu'il faut effectivement, t'as raison de le rappeler, il faut le replacer aussi dans le contexte. J'ai parlé de la quatrième dimension, tout ça et tout, mais le comics, c'est énorme, quoi. Et encore une fois, nous, ce qui nous plaisait, enfin, ce qui nous avait touché dans The Blade et puis après dans Matrix et tout, c'était enfin, tu te disais, putain, des mecs qui ont compris le comics, quoi. Nous, enfin, on était des lecteurs de comics tous les deux, Steph.
Complètement, hein.
Et c'est vrai qu'il y avait une vraie frustration. C'est-à-dire que même sur un chef-d'œuvre comme Batman le Défi, c'est clairement pas du côté du comics et de l'adaptation comics que tu es rassasié.
Non, parce qu'en fait, ils s'en foutent complètement,
ils s'en
que ce soit Burton ou Daniel Waters.
C'est ça,
mais
voilà, c'est pas du tout le truc. Et à côté de ça, les films adaptés de comics ou qui se réclamaient du comics étaient d'une pauvreté hallucinante. Et effectivement, je pense qu'il y a eu la démocratisation des effets numériques, et The One en a profité à fond, de façon parfois un peu abusive, mais ils en profitent, tu vois, et au moins c'est tu vois, effectivement, des images comme ça qui sont vraiment cool, quoi, qui sont vraiment agréables.
Puis quand,
quoi,
tu sais ce que tu vas voir avec un film comme The One, tu vois, je veux dire, par exemple, le truc où ils passent d'une dimension à l'autre et qu'ils font des gueules pas possibles à Total Recall ou des trucs comme ça, c'est un peu marrant, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, tu peux pas vraiment prendre le film au sérieux. Le dernier plan du film,
il est
super fun, quoi. Nous, on est sortis, moi je me rappelle, on l'avait vu tous en projet à l'époque, hein. Donc, un petit peu à l'avance et tout, quoi. Et en fait, on était sortis, on était contents. On est contents de voir un plan où le mec, en fait, si tu veux, donc il se retrouve dans une. Alors, on spoil.
Ah, c'est un gros spoil.
C'est un gros spoil, mais bon.
Vous gâchez pas la surprise si vous l'avez pas vu.
Voilà, mais c'est l'idée, en fait, que le mec est balancé dans une dimension prison, on va dire, plus ou moins, et qui s'appelle Hadès. Et en fait, en gros, il décide, tous les gens veulent l'attaquer, quoi. Mais c'est Jet Li, c'est le deuxième dernier, en fait, c'est l'avant-dernier, on va dire, peu importe, en fait, comment on voit. Donc il a une certaine puissance et il dit, je suis pas votre pute, c'est vous, en fait, ma pute, tu vois. Et il commence à savater 15 mecs, et c'est un plan à la Mortal Kombat, en fait, où il part. Et c'est tellement
bien fait, c'est un beau plan, hein, c'est différent qu'il avait fait, et c'est joli, en fait, c'est une espèce de pyramide, et t'as un travelling arrière qui n'en finit pas, et à la fin t'as même des espèces de vaisseaux qui arrivent à la Terminator, justement, là, qui avec des espèces de projecteurs et tout. T'as un mélange de vrais figurants et de figurants en 3D qui, même aujourd'hui, tient plutôt bien la réunion.
Et puis,
quoi,
en fait, tout bêtement, le film, il serait terminé sur quelque chose un peu plus sérieux, un peu plus poète-poète, un peu plus, je sais pas, tu vois, en fait, ça serait pas le film.
C'est pas la même chose,
voilà,
exactement. Et c'est aussi une note d'attention,
voilà,
le dernier plan, quoi.
Et c'est en ça que le film est plutôt, enfin, que tu sors avec une bonne aura, en fait, du film, quoi. Maintenant, bon, faut relativiser, c'est quand même shooté à l'américaine. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude de voir du Jet Li période Hong Kong, et bon Dieu sait qu'il a fait des films, comment dire, pas très très bien filmés, quoi, tu vois. Je pense au Wong Jing, au truc comme ça, quoi. Là, ça reste quand même très cuté, très, comment dire, un mouvement, un cut, tu vois. Et du coup, je trouve que, en fait, toute la logique des arts martiaux, en fait, si tu veux, n'est pas ultra fluide, en fait. Le combat final, c'est un des problèmes, outre le fait qu'on peut voir, en fait, qu'il se bat contre quelqu'un qui plus ou moins une doublure avec le même gabarit, et que de temps en temps, il y a des masses numériques qui sont assez grossier, quoi.
Ouais, bon, ça tu peux l'expliquer pour l'époque.
J'aime bien l'idée des étincelles et des trucs comme ça.
Ça,
il y a,
voilà,
un truc qui est sympa,
vois,
dans
c'est
le
ce que
combat,
j'allais
quoi.
Dire, tu vois, c'est que oui, bien sûr, il y a ça et tout, et c'est vrai que c'est dommage parce qu'il était venu avec Corey Yuen et puis toute son équipe. C'était l'époque aussi où Hollywood avait accepté, en fait, finalement,
à cause de Yuen Woo-ping,
et du coup, c'est les chakras s'ouvraient, quoi. Et tu sais qu'à chaque fois, tu dis putain, merde, mais reste un peu plus longtemps, tu peux te permettre ça avec un mec comme Jet Li et tout. Et ça manque un petit peu, quoi. Mais effectivement, tu vois, le coup des étincelles, par exemple, c'est ça le truc, c'est que le film te rattrape toujours avec une petite idée. Il y a la petite idée qui fait plaisir.
Ouais, et puis en fait, c'est un truc de styliste que tu t'attendais pas forcément, en fait, de la part de James Wong. Par exemple, quand Tony Scott, il fait ça dans la fin de True Romance avec les plumes, bon, bah, c'est Tony Scott, tu vois, tu te dis, oui, bon, bah, c'est forcément, il va mettre sa touche, en fait, sur la séquence, en fait, comme ça, il veut la faire différemment des autres. Mais là, de la part d'un James Wong, on s'attendait pas forcément à ça, surtout que le film est assez classique, encore une fois, si tu sors des trucs post-Matrix, quoi. Et là, en fait, t'as un truc comme ça qui est plutôt cool, où tu te dis, bah, vous êtes quand même fait chier, parce que ça devait pas être facile à tourner, tu vois.
Mais ça vient aussi de Eric Durst, en fait, qui était le superviseur FX, qui était un super mec qui avait bossé sur Torque.
La route sans flamme.
Mais c'est un mec vraiment intéressant. Il avait déjà bossé sur Tron et tout. Et c'est un des gars, en fait, c'est une force créative, en fait, vraiment dans le film et tout. Et moi, c'est ce que m'avaient dit les quelques mecs que j'avais interviewé, moi, qui étaient plus du côté des effets spéciaux. Mais il avait vraiment voix au chapitre, en fait, tu vois, à l'époque. Et je pense que c'est pareil. On écoutait beaucoup ces gars-là. On cherchait le nouveau John Gaeta, qui était le superviseur des FX, en fait, sur Matrix, et on se disait, si ce mec-là, il nous dit qu'avec la caméra, on peut faire ça, tout à coup, en fait. Ce qui est ça qui était génial avec Matrix, et encore un peu The Blade, mais surtout Matrix, c'est
Blade.
Que... Blade, ouais, pardon, excuse-moi, The Blade, c'est le chef-d'œuvre de Twerk. Mais c'est ça qui était super, c'est que tout à coup, en fait, on se disait, ah oui, les effets spéciaux peuvent servir vraiment à nous faire des plans, en fait, qui pètent. Et Eric Durst venait aussi pour ça. Alors bon, ça donne Torque quand la route s'enflamme, ouais, mais ça, on en a déjà parlé, on va pas revenir dessus, même si voilà, bon, qui pique tout ça. Mais ça donne aussi effectivement des idées comme ça, ou des idées comme le plan final, quoi. Et ça, c'est agréable. Je ne dis pas que les idées viennent uniquement de lui, mais je dis que voilà, il faisait partie, en fait, de cette équipe qui permettait de donner ces petites idées bonus, en fait, dans The One, quoi.
Alors on va en parler, parce qu'on l'a évoqué rapidement. Il y a Jason Statham dans le film, par exemple, qui était un personnage secondaire, hein, tu vois, mais qui était déjà quelque part Jason Statham, si ce n'est avec un peu plus de cheveux et un peu plus jeune, quoi, et qui avait, je pense, à mon sens, en fait, cette problématique qui va le suivre sur toute sa carrière, qui est, en fait, que tu sens que, comme c'était pas la vedette dans le film, là...
Il a envie d'être la vedette,
mais en fait, tu sens qu'il a fait le film pour faire le film avec Jet Li, parce qu'il devait kiffer Jet Li en tant qu'artiste martial, etc., etc. C'était avant que le transporteur lui offre un premier rôle, on va dire, d'action, quoi, de héros d'action, un an après, d'ailleurs. Mais le problème, c'est que, du coup, tu sens qu'il surcompense à mort, et c'est vraiment le Jason Statham qui surcompense comme c'est pas permis, quoi.
Il est insupportable.
Et tu sens que même, il a pas envie de... Quand Jet Li le tient en respect, à la fin, il lui dit, bon, c'est bon, là, tu me laisses me battre, maintenant, tu me laisses tranquille. Tu sens que le mec, en fait, il le fait vraiment à contre-cœur, voilà. Et c'est on va dire, le mec roule des mécaniques comme ça a toujours été un peu le cas dans sa carrière, quoi, mais alors là, c'est flagrant, quoi. Et c'est ouais, même plus flagrant que dans Ghost of Mars, où il me posait déjà problème, moi, je trouve, dans le film de Carpenter, quoi. Mais c'est deux films qui sont sortis plus ou moins en même temps. Voilà, donc, et puis je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait rajouter vraiment
On a peut-être pas beaucoup parlé de Jet Li aussi, parce que ce qui est agréable, c'est marrant parce que t'as cité L'Arme Fatale 4, Roméo doit mourir et tout, et c'est vrai que une des problématiques, moi j'ai trouvé, en tant que fan de Jet Li, mais évidemment dans sa période chinoise à Hong Kong, c'est que tu disais, mais en fait, ils le comprennent pas, en fait. Ils comprennent pas pourquoi ce mec est un héros, en fait. Ils comprennent pas pourquoi on l'aime autant et pourquoi il est différent, en fait, de Bruce Lee. Et notamment, ce truc de... c'est mon avis, mais j'ai toujours trouvé qu'il avait une espèce de bonté qui émanait, en fait, de Jet Li. C'est rare de voir un... moi, j'adore Bruce Lee aussi, évidemment, mais Bruce Lee, c'est la haine, quoi. C'est la hargne, quoi. Il a un truc de rage en lui, quoi.
C'est la rage plutôt, mais c'est le militantisme, en fait.
Dans Bruce Lee, bien sûr,
quoi,
évidemment, c'est un crime. Voilà, il y a un truc. Jet Li, je trouve que c'est pas Dr. Wong pour rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sérénité, en fait, mais qui va aussi avec sa façon de se battre, peut-être aussi, quoi. Et une sérénité, une gentillesse, en fait, qui émane totalement de lui. Et c'est vrai que dans tous ces films américains, en fait, et à part The One, aucun n'a su exploiter ça. Et j'aime beaucoup, en fait, son personnage de gentil. Alors, et le méchant ressort d'autant mieux, quoi, parce que justement, ça fait partie des rares films où j'ai retrouvé, américain, j'entends, où j'ai retrouvé ce truc-là, en fait.
Il y a de ça, et puis en plus, il y a toute l'idée, en fait, qu'il. Mais je pense que ça vient de lui, hein, dans le film. qui ramène une certaine philosophie en fait des arts martiaux, une certaine philosophie de bien-être, tu vois, mental, de bien-être physique et tout, qui est bon, finalement pas très trop exploité dans le film non plus. C'est vraiment en sous-main, quoi. Mais ouais, tu le comprends en fait dans sa relation avec sa femme, tu le comprends dans la maison dans laquelle il vit, tu le comprends par rapport à tout ça, quoi. Et mine de rien, en fait, c'est des petits trucs où tu te dis,
ça construit le personnage, ça l'étoffe un peu.
Vu qu'on parle en fait, si tu veux, d'un film de science-fiction où les logiques en fait d'énergie, les logiques en fait de karma, les logiques de tout ça en fait rentrent en ligne de compte. Voilà, c'est vrai que tu te dis putain, en fait à la fin c'est dommage que ce soit pas plus exploité que ça, quoi, et que ça donne pas un cœur émotionnel plus prononcé, quoi. Mmh. Tu vois. Et d'ailleurs, enfin moi ça fait partie, tu as cité Highlander tout à l'heure, voilà, en comparaison, mais ça fait en revoyant The One comme ça, c'est exactement la même chose que quand je revois Highlander. C'est bon, pas souvent, hein, tu me diras, parce que Highlander au bout d'un moment c'est quand même, il faut quand même dire que c'est quand même un film...
Allez, passe à la suite.
Qui est resté coincé entre 86 et 86, quoi.
Ah,
et bah, c'est vrai, c'est un film qui a vieilli. Ce sont des films qui mériteraient un vrai remake, parce qu'ils ont un tel concept, de telles idées, de telles choses, en fait, que si tu dis, mais bien, tu vois, bien fait, quoi. Tu vois, vraiment, en fait, bien poussé, quoi.
Oui, mais en même temps, ça, c'est une qualité. C'est-à-dire que c'est aussi un truc où c'est... Je pense aussi que c'est, bizarrement, c'est ce qu'on attend d'une bonne série B, en fait. De se dire, c'est pas totalement exploité, mais du coup, ça te fait travailler le ciboulot. C'est-à-dire, c'est super comme concept. Je pense qu'une bonne série B, même dans les années 50 et tout, c'est aussi ça, en fait. C'est un truc qui est pas forcément totalement abouti et qui t'ouvre aussi l'idée, en fait, et l'imagination,
si
quoi.
Ce n'est que,
c'est un concept peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je crois ça, en fait. C'est marrant parce que je me suis fait la même réflexion que toi et je me suis dit, mais... est-ce que j'ai vraiment envie qu'on pousse ça plus, en fait? C'est-à-dire que un des plaisirs aussi de The One, c'est que tu sors, et je pense en plus qu'on l'avait fait tous les deux, et tu te dis, putain, mais les autres Jet Li sont trop rigolos, et tu commences à peut-être fantasmer, en fait, sur ce qu'on pourrait faire, ce qui pourrait être, et quel serait l'autre univers et tout, quoi.
Mais
et
moi, je pensais plus à l'idée, en fait, si tu veux, que quand t'as un concept aussi fort de SF, si tu veux, t'essayes de vraiment exploiter toutes les mamelles du truc, quoi. C'est-à-dire vraiment pas seulement l'idée de montrer que les univers, en fait, mais qu'est-ce que ça veut dire. Là, le film, il pose...
Part of a Buffalo, c'est le truc de Brad Bird, ouais.
Mais le truc aussi, par rapport à ça, c'est que, voilà, le film ne pose pas la question de qu'est-ce qui se passe si Jet Li tue vraiment Jet Li. Tu vois ce que je veux dire? Et parce que personne le sait, il pose la question, mais il donne pas la réponse. Et du coup, en fait, le film, enfin, un remake pourrait donner un semblant de réponse à un moment donné sur un truc comme ça, qui pourrait être intéressant aussi, quoi.
Oui,
dans
cette
logique de concept de SF, encore une fois.
C'est pas plus mal que ce soit dans le non-dit, quoi. C'est comme le quickening de Highlander.
Alors, le quickening, tu veux dire.
Oui, bien sûr. Non, mais voilà, après, moi, je sais pas, moi, je te rejoignais plus, disons, sur effectivement, le travail des mondes parallèles. En plus, il y a un monde parallèle idyllique à la fin, là, qui est représenté, qui est hyper.
Qui est très Demolition Man, là.
Ah,
en
ouais,
fait.
Mais qui est complètement kitsch et tout, mais qui est assez drôle. Et oui, c'est vrai que là, tu peux te dire. Et en même temps, non, je trouve que c'est pas. S'il y a frustration, c'est que c'est bon aussi. Enfin, tu vois, il y a un peu de ça aussi dans le truc. Le film rassasie en
tant que. Ça n'a jamais été mon credo.
Non, moi non plus, c'est vrai en plus. Mais en même temps, c'est que.
Less is more Mayas, tu vois.
Le film te ment pas sur ce qu'il est.
Et, non,
et il te donne ce qu'il est, en fait, tu vois, à peu près, peu ou prou, quoi. C'est aussi ce qui mérite, en fait, qu'il soit vu.
Et c'est pour ça que quelque part, on en parle encore 20 ans après.
Ouais,
même
voilà,
si. Objectivement, c'est un film qui est extrêmement daté dans par exemple ses choix musicaux.
Ouais, ça c'est plus pénible qu'autre chose.
Trevor Rabin, je crois, la musique. Tu vois.
Ça fait partie des trucs qui sont un peu ronds.
Voilà, où tu sens que là, c'est vraiment la mainmise du studio qui fait bon, là, tu nous mets de la musique tendance, du rock tendance FM pourri, quoi, ce genre de choses. Où tu te dis merde, il manque un thème dans ce film, il manque
une
quelque chose.
Une espèce de hard
vois,
rock un peu foireux, là.
Ouais, FM californien foireux, quoi. Mais il manque un thème, il manque un truc héroïque, il manque quelque chose qui pourrait en fait transcender le truc. Et sur le principe du concept de série B, j'ai envie de dire, si tu veux, mais bon, évidemment, on cite, tu en as parlé, Terminator, tu vois. Là, c'est de la pure série B, Terminator. Mais le truc, c'est que voilà, l'idée de vraiment développer, tu vois, l'univers et te dire, même si, pour le coup, je trouve que justement, il n'y a pas frustration dans Terminator. La suite, moi, j'adore la suite, mais il n'y a pas frustration. Alors que là, effectivement, tu pourrais dire, il y a un peu frustration sur plein de petits éléments, en fait. Pourquoi, comment ça fonctionne, en fait. Est-ce que automatiquement, par exemple, Jet Li est automatiquement mariée dans tous les univers avec Carla Gugino, tu vois. Est-ce que, tu vois, ce genre de choses, quoi. Est-ce que c'est pas un peu injuste?
Mais tu penses que oui. T'es jaloux, c'est ça?
Mais ça, c'est pas normal. Faut en laisser. Non, mais blague à part, je sais pas, tu vois, le truc, en fait, si tu veux, c'est que non, toutes ces notions qu'il n'y a pas forcément que du fun, en fait, dans certains univers, il y a aussi, tu vois, et vraiment jouer sur toutes ces couches, en fait, de, voilà, plutôt que de, ah ouais, le truc qui va, qui est sympa, qui est marrant, tu vois, qui est bon esprit, tu vois. Et
ça me gêne pas. Ça fait partie aussi du plaisir et tout. Il y a une petite info que j'ai pas donnée aussi. Alors je suis désolé, je reviens un peu sur les fixes comme c'est, vous savez que c'est ma marotte. Mais
truc.
Non, mais en fait c'est pas tout à fait que sur les fixes. En fait, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé tout à l'heure des effets à la Matrix et etc. Enfin des trucs à la Bullet Time là. James Wong t'a dit non, c'est pas vrai, mais si, c'est quand même un peu vrai. Et en fait, le truc, c'est que évidemment les effets à la Bullet Time c'était très dur à faire, très cher surtout, ça coûtait beaucoup de pognon, et The One est encore une fois reste dans des canons budgétaires plutôt raisonnables, quoi.
C'était 48 millions de dollars à l'époque, hein. ce qui était un budget moyen, les budgets moyens qui n'existent plus aujourd'hui à Hollywood, hein, d'ailleurs dans les films de studio, quoi, mais qui était
moi je me sens pas volé en fait quand je vois un film comme The One. Par rapport au budget. Et en fait le truc, c'est qu'ils ont compensé en fait les outils qu'ils avaient mis en place sur Matrix, leur absence en tout cas, par Jet Li, en fait, tout simplement. Et je voulais vous le dire, en fait, parce que il me semble que c'est intéressant. On a parlé de l'apport d'avoir Jet Li et tout. Mais c'est-à-dire que les changements de vitesse et surtout la précision de Jet Li leur a énormément, en fait, servi pour concevoir les effets spéciaux. Il y a un exemple, moi, que j'aime beaucoup, par exemple, c'est que Jet Li devait se battre, comme il doit se battre contre lui-même, il avait besoin d'avoir des points de raccord extrêmement précis qui figuraient avec des balles de tennis. Et en fait, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus besoin des balles de tennis et que le mec était tellement précis, en fait, dans ses gestes, que d'un plan à un autre, il avait arrivé à retrouver exactement la marque. Et on parle à un centimètre près, hein, tu vois. Je trouve que ça en dit beaucoup. Et même si tu veux, sur les différences de mouvement et de déplacement, en fait, de Jet Li, il le faisait lui-même en temps réel sur certaines choses, pour éviter des balles, notamment, sur un plan comme ça. Donc, je trouve que ça en dit... parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, en fait, finalement, dans Stéroïdes, de Jet Li. T'as jamais fait de vidéo sur lui.
Pas encore,
t'avais non. T'avais fait Le Maître d'Armes, qui est un chef-d'œuvre. Enfin, moi,
on
je
en
trouve
avait
que c'est
parlé
un chef-d'œuvre
avec,
de René
avec Yannick,
avec
effectivement.
Avec Yann, ouais, si mes souvenirs sont bons, mais c'est vrai que c'est... Enfin, on adore Jet Li, c'est un grand maître, et je trouve, enfin voilà, c'était aussi ma façon de saluer un peu sa maîtrise hallucinante.
Et un type
de
qui n'avait
corps,
même pas encore 40 ans à l'époque, en fait, ouais. qui était vraiment, parce qu'il a commencé très très jeune, hein, dans le temple de Shaolin et tout ça. Mais le truc, c'est que voilà, il y avait ce truc là, et c'est vrai que on va dire que à la mesure de ce qui sortait à ce moment-là, en fait, en salle, parce qu'on a parlé effectivement de Roméo doit mourir, mais on oublie. Le baiser mortel du dragon.
Le baiser mortel du dragon.
Qui est quand même une putain de série Z, tu vois.
Il y a eu en sursis juste après aussi, ouais, qui était pas bien non plus, quoi.
Il a refusé les Matrix aussi, ouais, en fait, parce qu'il n'était pas assez payé. Mm. Mais donc ouais, il y a tout un truc comme ça. Et finalement, The One, c'est ce qui ressort de cette période américaine au début, je trouve, de plus sympathique.
Américano-française, hein, parce que c'était aussi...
Oui, bah après, c'est tellement fait à l'américaine, comment dire. Enfin, ça se voudrait tellement être fait à l'américaine, le baiser mortel du dragon, que bon, voilà, moi, j'ai un petit fétiche sur ce film, parce que c'est tellement dégueulasse et foireux et mal foutu, etc., etc., que ça en devient rigolo, quoi. C'est un nanar, quoi. Mais évidemment, The One, c'est d'une toute autre tenue, quoi. Mmh. Voilà.
Bah, c'est le seul bon Jet Li américain.
Ouais, en cherchant bien, effectivement.
On dit ça,
ouais. On dit,
est-ce qu'on reste là-dessus? Merci Alain, la technique. Merci, c'est pas Alain, mal Alain, comme conclusion, non?
Alors, en fait, il est en train d'acquiescer du chef. Il opine du chef.
Il a mis son t-shirt préféré, Akira.
Voilà.
Voilà, comme ça,
pour nous dire
qu'effectivement,
pour lui aussi, c'est le meilleur Jet Li américain. Merci Julien.
Bah merci Stéphane.
Merci Alain. Merci à la technique.
Merci Alain à la technique.
Merci à nos auditeurs. Pour nous suivre, les réseaux sociaux habituels, hein, c'est-à-dire que, bah voilà, en gros, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, etc. etc.
TikTok.
TikTok, non, on n'a pas encore fait TikTok.
TikTok.
Avec des deepfakes où on se fait passer pour Jet Li.
Ce serait trop bien.
Pour vendre les émissions, tu vois. C'est
je le porte volontaire, tiens. Voilà.
Et je suis très déçu, t'as pas du tout fait de point caca.
Et non.
Cette fois-ci,
mais écoute, il faut rester dans la frustration, tu
voilà,
vois.
Quand il y a frustration, c'est
que ça reviendra,
c'est
bon, c'est ça, les mecs, ça reviendra.
Ouais, puis en fait, il y a tout simplement l'idée que je voulais respecter Jet Li.
Exactement. Ouais.
Bah, merci Julien.
Et merci à Jet Li.
Et à bientôt.